Und Frieden ist nicht mehr nur ein Wort aus Lügnerschnauzen für Massenmord. Kein Volk muss mehr nach Frieden schreien, so
garde tous ces documents. Et alors, j'étais très impressionnée de voir la reproduction de bateaux de guerre, de sous-marins.
Ja, Wohlstand wollen wir gern, anstatt dass uns am Ende der Wohlstand hat. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, so soll es sein. So soll es sein, so wird es sein.
Wolf Biermann. Ainsi cela doit être, ainsi cela sera. D'une façon ou d'une autre, la terre deviendra rouge, que ce soit un rouge vivant ou un rouge de mort. Nous nous en mêlerons un petit peu, ce sera ainsi, bien cela sera ainsi. Oui, la propriété, la prospérité, nous la voulons bien, et bien plus que ce soit la propriété qui à la fin nous est. L'homme a besoin pas seulement de pain pour vivre. La liberté est une belle femme. La liberté de la démagogie. Prenez-la, la liberté, autrement elle va s'en aller sans vous. Nous libérerons aussi les libéraux. Ainsi cela doit être, ainsi cela sera.
Auch Liberale werden wir befreien, so. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Dem Bourgeois auf die Finger schauen.
Montrez les bourgeois du doigt. Cela ne suffit pas. Il faut les faire tenir sur les pattes de derrière, ces cochons de bourgeois, bien gras. Ainsi cela doit être, ainsi cela sera.
Ein Liebespaar wird uns mehr geschasst zu lebenslänglichem Eheknast. Die Untertanen.
Le mouchard ne trouve même plus de travail, ça devient un chômeur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon à prophétiser. Ainsi cela doit être, ainsi cela sera. Elle-même, enfin, la révolution, elle se révolutionne déjà. Elle se jette elle-même la première pierre. Ainsi cela doit être, ainsi cela sera. D'une façon ou d'une autre, la terre sera rouge. Que ce soit un rouge de mort ou un rouge de vie, nous nous en mêlerons un peu. Ainsi cela doit être, ainsi cela sera. Alors vous dites les choses ont changé, effectivement les choses ont beaucoup changé et très vite changé ces derniers mois, ce dernier mois. Et alors au moment où des premières manifestations par exemple à Leipzig ou après effectivement les événements de la Pologne, de la Hongrie où tout à coup on a dit les gens peuvent partir et on a eu cette énorme masse de gens qui ont décidé de quitter l'Allemagne de l'Est pour venir en Allemagne de l'Ouest ou ailleurs, quelle a été votre réaction à toutes les deux? Est-ce que vous vous êtes dit mais mon Dieu qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes senti particulièrement concerné vu que vous étiez en Suisse et qu'il fallait que vous viviez tout cela avec plein de centaines de kilomètres d'espace? Est-ce que vous avez eu peur en vous disant ça y est, les soviétiques vont à nouveau réintervenir, il va y avoir une réoccupation militaire? Quelle a été votre sensation au moment de ces premiers grands changements?
Moi je dois dire que j'avais absolument pas crainte que les soviétiques allaient intervenir de nouveau cette fois, ça m'a même pas effleuré un moment et avec les changements en URSS, je crois, on s'attendait. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à cela. Et ayant quand même vu l'intervention en 53, après en Pologne, en Hongrie, mais cette fois, pour moi, ce n'était pas une intervention soviétique que je craignais. J'avais des discussions avec des amis ici, et on avait longuement discuté sur les raisons de fuite de ces personnes, et on est arrivé à la conclusion que c'est des réfugiés économiques, ce qui est peut-être un peu méchant à dire les choses, mais j'avais quand même l'impression, tout à fait récemment, et qu'il n'y avait pas, les gens en Allemagne de l'Est n'étaient pas vraiment en danger pour des opinions politiques, mais aspirer effectivement plus de liberté. Je ne voudrais pas être à leur place, hein, mettons d'accord sur cela, mais aspirer à plus de liberté, mais aussi à plus de possibilités d'avoir des biens de consommation que nous avons. Et puis effectivement, je crois, les informations circulent beaucoup mieux qu'ils circulaient à l'époque. Et je crois qu'il y avait là une grande tendance à vivre mieux, vivre plus librement, vivre mieux. Mais ça a pris une telle ampleur, c'est allé tellement vite qu'on avait presque la peine à suivre ces derniers mois.
Vous, Waltraud, comment vous avez réagi à ces premiers événements ?
Ah, moi, j'étais très fascinée par ça, l'exode. Dans les années 50, on pensait souvent... Et quelle injustice. Les uns étaient là, les autres étaient là. Et puis, il y a des conditions de vie tellement différentes. Et dans les années 60, j'ai encore toujours pensé cela. Et peut-être plus tard, il y avait une certaine nivellation. Pas à tous les niveaux, mais quand même. Les deux allaient nettement mieux. Et puis, bon. Et puis maintenant, quand tous ces gens quittent de nouveau un pays... Ça veut quand même dire qu'ils sont quelque part profondément mécontents. Quoi que ce soit le motif de leur mécontentement, ils le quittent et en même temps, ils quittent un peu leurs racines. Ils quittent leur origine. Ils laissent un peu leur identité là derrière. Peut-être qu'on ne se rend pas toujours compte quand on fait un pas de ce type, ce que ça veut vraiment dire de quitter... son territoire, de quitter le lieu où on est quelque part enraciné. Et je me dis, ces gens, ils vont en Allemagne de l'Ouest, et qu'est-ce qu'ils vont bien trouver là ? Ça ne va peut-être pas du tout leur plaire. Ils vont se sentir comme le bouchon sur l'eau. Et ça va être tellement difficile pour eux, parce que l'Allemagne de l'Ouest n'est pas toujours très, très accueillant. Et puis... On est assez matérialiste et chacun pour soi. Je me disais, non, mais vraiment, ils partent quelque part. Ça m'en met beaucoup en émotion. Et il y a une autre pensée qui me vient souvent. Je me dis, grâce à ces gens qui ont osé de faire quelque chose, qui ont vraiment lâché quelque chose pour aller vers une chose nouvelle, il y a eu aussi ces changements en Allemagne de l'Est. C'était une pression. Alors, cette votation avec les pieds, je trouve ça aussi rendu la situation telle qu'elle était et ces manifestations après qui sont venues, cette ferme volonté des autres de vouloir rester et de vouloir changer quelque chose. Moi, ça me fascine, ces gens qui crient « Moi, je reste. Ich bleibe da. Ich gehe nicht. Je reste. » Je trouve vraiment il y a là une volonté... de faire changer les choses et de s'investir, de s'engager, qui est très impressionnante. Alors vraiment, j'étais beaucoup intéressée. J'ai regardé à la télévision quand je pouvais et j'ai essayé de bien suivre sur les journaux.
Vous avez acheté plein de journaux allemands, j'imagine.
Comme toujours.
Comme d'habitude. Quand même, je pense, après un moment, quand on est loin, depuis, comme Dagmar et moi, depuis longtemps, il arrive un moment... où il y a de nouveau un sentiment
pour son territoire. On retrouve ses origines.
On retrouve ses origines. Oui, c'est au fond très rigolo. Il y a un moment d'intégration totale dans cette vie ici. Et d'un coup, on voit, mais ça, c'est mon histoire. Ça, c'est mon identité. Et là, j'ai appris ça. Et là, c'était ça. Et quelque part, on cherche toujours le dialogue intérieur avec ses origines. Hein, tu trouves pas?
Moi, je dois dire que je me suis fait beaucoup de soucis aussi pour l'accueil en Allemagne de l'Ouest de ces gens. Il s'agissait comme des gens relativement jeunes, bien qualifiés, qui tombent à un moment où aussi l'Allemagne de l'Ouest avait besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui est probablement ce qui est un bon point, parce qu'ils pouvaient être relativement facilement intégrés dans la vie active, dans la vie économique. Mais connaissant quand même un peu les Allemands, n'est-ce pas, je pensais que c'était quand même un pas qui était très, très difficile et qui devait se payer à long terme, et payer lourdement.
D'accord, oui. vous n'avez pas senti qu'ils étaient à ce moment-là comme vous étiez vous en 54 quand vous aviez
décidé? Oh, j'étais trop jeune pour avoir ça, c'est incomparable. Je crois là, il faudra parler à des gens plus âgés qui avaient 28, 30 ans. Moi, j'avais 10 ans en tant qu'enfant. On se cuit à toutes les sauces. Je veux dire, ça ne m'a pas affecté vraiment d'être là ou d'être ailleurs.
Donc les petits-enfants qui passent aujourd'hui de l'Est à l'Ouest, ils ne se rendent pas compte de ce qu'il leur arrive.
On va leur raconter des histoires et peut-être s'ils sont suffisamment grands, ils auront des souvenirs comme nous avons des souvenirs de certaines choses, mais ils n'ont pas une conscience de
non-intégration.
De non-intégration, je ne crois pas, ils seront intégrés.
Ils s'adaptent très vite.
Ils s'adaptent très vite, je crois aussi. Par contre, pour les adultes, c'est déjà autre chose.
Et bon, les réflexions passent à travers différents stades. Hein. Il faut bien voir ce que ça donnera d'ici 10 ans.
Mais là, est-ce que vous vous êtes dit, par rapport à vos craintes de la façon dont les Allemands allaient accueillir ces Allemands de l'Est, est-ce que vous vous êtes dit, moi, j'aimerais être là pour pouvoir en accueillir quelques-uns? Enfin, je ne sais pas si vous vous êtes dit, mon Dieu, j'espère que ça se passera bien, ou est-ce que vous vous êtes senti concerné en disant, j'aimerais pouvoir, moi, accueillir ces gens, et comment vous l'auriez fait? Parce que bon, on a quand même vu des images magnifiques de gens qui sablaient le champagne, de panneaux d'accueil, etc., dans un premier temps.
C'était à Berlin,
gens...
hein?
Oui, mais c'était aussi à Rouf.
Ah oui.
Vous croyez que les sentiments d'accueil sont très différents?
Et moi, je crois effectivement, je trouvais que ce n'était pas des Allemands. Quand on voyait les gens sablés du champagne à Berlin, sur le mur, je me suis dit, mon Dieu, ça, ce n'est pas allemand, ce n'est pas un comportement allemand. Je trouve qu'ils étaient vraiment généreux. Il y avait le sourire, il y avait une générosité qui était tellement peu allemande que je... Undeutsch.
Mais vraiment, même en pensant à ça... Ça me fait une émotion.
Ah, tout à fait.
Mais c'est pas... Et puis c'était quand même inattendu à ce moment-là. Et surtout pas sous cette forme. Et que ça prendra vraiment une dimension de grande fête, de joie. C'est comme si pendant 45 ans, ou 44 ans, on avait attendu ce moment-là.
Ils étaient tous là, ils les attendaient.
Tout le monde était là. Et puis que finalement, tout ce qui s'est passé entre deux, c'était une parenthèse. Et quelque part, qu'on avait envie de s'entendre, et il y avait un tas d'obstacles, pourquoi on n'a pas toujours pu s'entendre sur le plan de la communication humaine comme on avait envie.
Oui, mais Berlin est une ville quand même. Hein. C'est une ville partagée. C'est Berlin. C'est une situation tout à fait particulière.
Oui,
je ne crois pas qu'on la retrouve forcément partout.
Non, ça, je ne pense pas non plus.
Et je crois que l'accueil n'est pas partout aussi chaleureux.
Non, je ne pense pas non plus. Hein. Ah non, et puis il y a des gens qui n'avaient vraiment aucune relation avec cette partie de l'Allemagne. En fin de compte, ils se disent, ça, c'est pas moi. C'est pas mon pays.
Bien aimé avoir Eva Maria Hagen, la compagne de Wolf Biermann, mais c'est tout aussi bien d'avoir la fille Nina Hagen qui nous parle de ses cauchemars. Dis, est-ce que je te manque quand les nuits sont longues et froides? Rêves-tu de moi quand je passe le mur en un éclair comme une sorcière? Et le mur comme un éclair comme une sorcière, c'est lorsque, grâce à la télévision, elle franchit le mur de Berlin. Elle franchissait le mur de Berlin, parce qu'aujourd'hui, elle l'a sûrement passé pour de vrai.
Mir nicht. Ich mach dich nachts zum Attentäter, zum Verräter. Ich jage dir den Schweiß von der glatten Stirn, bis dich ins Gehör.
Avec Nina Hagen, nous continuons notre conversation avec Baltrot Kiblier et Dagmar Axel sur Rome Ménage 93.8 Radio Zone. Et maintenant, ma dernière question, est-ce que pense-t-elle de cette réunification de l'Allemagne? Finalement, vous qui êtes si loin de l'Allemagne depuis un bon bout de temps, enfin si loin, parlons-en quand même, c'est pas l'autre côté d'un océan, vous y retournez, je pense, fréquemment quand même. Est-ce que vous avez l'impression que depuis la Suisse, vous avez maintenu des liens qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez ces événements complètement en communication? Ou est-ce que, je ne sais pas, vous, Dagmar, qui avait à un moment donné fait un grand saut d'abord en partant de l'Est pour aller à l'Ouest, c'était déjà une grosse coupure, puis ensuite vous êtes venu en Suisse. Est-ce qu'il y a eu une autre grande coupure qui fait que finalement, c'est assez loin?
Je crois qu'il y a eu une grande coupure. C'est loin et c'est près en même temps. Hein. J'ai de la peine à évaluer comment un Suisse vit ce genre d'événement. Mais j'ai même de la peine à évaluer comment un Allemand de l'Est vit ces événements actuellement. Je peux simplement dire comme je les vis moi. Alors, est-ce que je les vis différemment comme si j'habitais encore en Allemagne, je ne peux même pas le dire. Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne le sais pas.
Mais disons que vous vous sentez quasiment vraiment suisse.
Oui et non.
Oui et non.
Oui et non.
Parce que je crois qu'il faut... J'imagine qu'il y a aussi quand même beaucoup de Suisses, comme beaucoup de Français et beaucoup plein de gens dans le monde qui ont été aussi très émus à l'idée de ce qui se passait en Allemagne. Bien,
oui. Là, je pense qu'il y a une certaine... identité quand on est allemand qui était touchée. Disons, moi j'ai ressenti comme ça, il y a une partie de mon identité qui était là, qui était touchée. Je me disais, moi je suis ici et je regarde ça à la télévision juste un petit moment, j'aimerais savoir beaucoup plus et je ne pourrais pas savoir plus. Et ça m'a travaillé.
C'est un moment où je regrettais de ne pas avoir la télévision, je dois dire.
Et disons, moi, je ne suis pas une fanatique du zapping, mais depuis le 9 novembre, je zappe beaucoup.
Est-ce que la réunification de l'Allemagne est une chose qui vous préoccupe et que vous aimeriez voir arriver? Puisqu'il se trouve qu'il y a des hommes politiques qui avancent ça comme slogan. on se préoccupe toujours d'essayer d'interviewer les gens dans la rue en Allemagne de l'Est en leur disant « Est-ce votre souhait, oui ou non ?» Il semblerait que les réponses soient très diverses et que pas tout le monde rêve forcément de voir l'Allemagne réunie, que les Allemands de l'Est estiment exister maintenant comme nation et envie d'y créer quelque chose de nouveau. Alors quel est votre sentiment à vous, toutes les deux ?
C'est un peu difficile à dire. Je dois dire, l'Allemagne réunie, comme on s'était toujours imaginé classiquement jusqu'à maintenant, pour moi, ce serait une angoisse. Un pays de 78 millions au cœur de l'Europe, avec une puissance économique de l'Allemagne de l'Ouest qui sera immédiatement imposée de l'autre côté, je ne sais pas si je verrais ça d'un très bon œil. Mais ce que je pense, si actuellement on voudrait penser à une réunification entre guillemets de l'Allemagne, il faudrait peut-être mettre de côté les vieux schémas de pensée et d'être beaucoup plus créatif, d'imaginer d'autres façons de réunir, d'associer ces deux pays que dans une Allemagne solidement implantée qui sera une Allemagne de l'Ouest élargie. Et ça, je ne sais pas si c'est le souhait que j'aurai. Mais effectivement, je crois que les politiciens à l'Est et à l'Ouest n'ont pas d'idée là-dessus. Je n'ai pas actuellement non plus. Mais un peu de créativité politique fera du bien maintenant.
Oui, ça je pense aussi. De toute façon, il s'agit de faire quelque chose qui n'a pas existé auparavant. Et cette nouveauté, elle prendra le temps pour naître. Dans l'intermédiaire, il va avoir des formes peut-être qui ne vont pas satisfaire tout le monde. Et puis, il faut voir cette Allemagne à l'intérieur de l'Europe, d'une grande Europe. Et sans une Europe qui est une puissance, je ne sais pas comment dire, disons, sans cette Europe, je trouve qu'il n'y a pas une Allemagne sous une autre forme qu'actuellement. Il faudra absolument revoir les relations avec les autres pays et puis surtout les relations avec nos voisins à l'Est et à l'Ouest.
Ça, mais autrefois, Waltraud, vous aviez participé à l'époque de vos 16 ans aussi à des manifestations en Allemagne qui réclamaient en tout cas la fin de l'occupation et qui parlaient quand même de réunion de cette fameuse Westzone ou Ostzone, puisqu'on n'admettait pas à l'époque la division en deux États. Aujourd'hui, vous reparticiperiez à des manifestations comme celle-là ?
Ah non, c'est révolu.
Donc ça vous semble un souhait qui n'a plus de sens aujourd'hui ?
Ah non, il faudra voir tout autrement aujourd'hui. Ah non. À l'époque, c'était déjà très osé de parler de la Deutsche Demokratische Republik. Personne ne le faisait. Puis à l'époque, on disait, bon, dans l'avenir, peut-être, il faudra reconnaître qu'il y a deux États allemands. Bon, ça, c'est devenu un fait dans les dernières années. Et maintenant, il y a une situation nouvelle. Et pour cette situation nouvelle, il faudra des solutions nouvelles. Ça, c'est l'affaire des politiciens, ce n'est pas notre affaire. Moi, je ne vois pas non plus d'un bon œil une réunification de l'Allemagne.
Donc votre grand rêve n'est pas d'une Allemagne comme ça immense. Pour vous, ce n'est pas quelque chose d'intime, justement, d'affectif.
Il ne faut pas oublier que dans la République démocratique allemande, il y avait des choses très intéressantes qui étaient mises sur pied ces dernières années. Au niveau du service social, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors il ne faudra pas étouffer tout ce qui était bien.
Heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen.
L'Otelenia, dans l'opéra de Katsu, écrit par Brecht et Kurt Weill, je pense que l'un et l'autre seraient contents de savoir ce qui se passe en ce moment en Allemagne de l'Est.
Wir fliegen am Kahn.
deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht.
Valtrado, vous avez l'impression que des événements comme ceux-là, ils réveillent vos attaches, justement?
Ah oui, j'ai tout à fait cette impression. C'est pas seulement cet événement-là, mais quelque part, plus je prends conscience de l'histoire allemande, plus je me rends compte que vraiment ça, ça me concerne très intimement. Et l'histoire allemande me concerne autrement que l'histoire suisse ou que l'histoire française ou l'histoire de n'importe quel autre pays de l'Europe. Et là, quand il y avait ces événements-là, maintenant à Berlin, vraiment, je me sentais touchée dans mon identité allemande. Je suis sûre qu'il y a des gens qui me connaissent dans ma vie quotidienne. Ils croient que je suis parfaitement intégrée. Oui, j'aime beaucoup ce pays. Mais quelque part, à l'intérieur de mon âme, j'étais formée par cette culture et cette pense qu'on le réalise avec l'âge.
Je remercie infiniment Valtraud Kiblié et Dagmar Dexel de m'avoir apporté leur témoignage sur ce vécu en Allemagne, sur ce qu'elles ont ressenti en Suisse à propos des événements de ce mois de novembre et décembre. Et si vous avez une fois un témoignage aussi à faire sur un événement d'actualité, n'hésitez pas à contacter Romu Ménage sur Radio Zone 93.8.
On va célébrer. Je sais pas quoi, mais c'est beau de célébrer quelquefois. Un chant célébratif. 1943, l'Italie encore divisée en deux, il y a la résistance au nord. Mais la première copie d'un journal pour les femmes arrive quand même au nord. Encore clandestine. Et les femmes prennent cette première copie dans leurs mains et sont ravies. C'est vrai qu'elles ne savent pas lire, mais ça ne fait rien. Beaucoup d'entre elles apprennent à lire justement sur la première copie du journal des femmes. Et elles sont si contentes qu'elles mettent cette copie de journal dans un cadre. C'est là que je l'ai trouvée, à Mantova, nella cascina, sur le réfrigérateur. La première copie du journal des femmes, à droite un autre cadre avec Jean XXIII, le pape buono. À gauche un autre cadre. Il y avait Staline. Tous les trois faisaient beaucoup d'œil. Et la vieille femme qui m'avait fait voir cette préciosité m'a dit, nous étions si émus, mais si contentes que nous avons voulu remercier et célébrer en inventant une chanson. Et la voilà. Ignoranti, senza scuole, calpestate.
Come on.
C'était Giovanna Marini et ses chanteuses qui nous ont mis dans une belle chanson qui évoque ces femmes italiennes qui n'ont pas reçu d'éducation mais qui cherchent quand même à gagner leur indépendance. Vous allez entendre maintenant une chanson un peu particulière qui nous vient de République dominicaine. Et oui, puisque c'est de la République dominicaine et des femmes de la République dominicaine dont nous allons parler la semaine prochaine. La chanteuse que vous allez entendre s'appelle Xiomara Fortuna. Et elle, c'est une chanteuse qui, semble-t-il, est connue en République dominicaine. Et elle a accepté de chanter publiquement, profitant de sa notoriété, les chansons qui avaient été écrites par des femmes qui travaillent dans des groupes un peu partout sur l'île de la République dominicaine. Alors la semaine prochaine, nous allons rencontrer Anna Regazzoni et Philippe Besson, deux représentants de l'association Helvetas qui soutiennent entre autres les groupes de femmes dans la République dominicaine. Alors pour aujourd'hui, nous écoutons la femme paysanne qui n'a pas honte, je vous cite les paroles, c'est mieux. Femme, n'ayons pas honte si on nous nomme paysanne, car c'est un privilège qui nous est dû. Nous luttons partout pour notre intégrité, dans notre labeur, au foyer ou dans les champs. Unis, nous travaillons comme paysannes pour que jamais ne manque ni œuf, ni poulet, ni poule. C'est donc les femmes dominicaines dont nous parlerons la semaine prochaine sur Homme et Ménage, Radio Zone 93.8. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous demander une carte d'auditrice ou d'auditeur en nous téléphonant au 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis Genève, 00 33 si vous appelez depuis le restant de la Suisse romande ou la France voisine. Alors n'hésitez pas pour nous soutenir, pour soutenir Radio Zone, qu'elle puisse continuer à faire son travail au service des minorités. Une carte d'auditrice au prix de 25 francs suisses ou 100 francs français, en laissant votre nom et votre adresse à notre numéro de téléphone. J'avais envie de faire encore une exception de musique masculine ce soir. Nous avons entendu tout à l'heure Wolf Biermann, à côté duquel on ne peut pas passer lorsqu'on parle de République démocratique allemande. Eh bien, il est aussi un chanteur lorsqu'on évoque la démocratie à venir au Brésil, qui devrait arriver, nous l'espérons, ce week-end. Eh bien, c'est Chico Buarque. Chico Buarque qui s'est battu, qui n'a pas quitté le Brésil et qui a continué à chanter des chansons en utilisant toutes sortes de phrases subtiles pour qu'on ne devine pas trop au niveau de la censure ses attaques contre la dictature. Et lorsqu'il dit « Malgré vous, eh bien, les choses vont changer », c'est ce qu'il disait il y a quelques années et cela va t'arriver.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem guia. discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã de ser outro dia,
eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.
Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia
você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Στο κρασό πουλο πηγαίναν για να φάνε να πιούν. Στο κρασό πουλο πηγαίναν για να φάνε να πιούν. Κι που τρώγαν, κι που πίναν, κι που γλέδαγαν. Κι που τρώγαν, κι που πίναν, κι που γλέδαγαν. Κάποιος έπιασε κουβέντα για τις ομορφές. Κάποιος έπιασε κουβέντα για τις ομορφές. Ομορφή είναι που έχει ρεμένε τα ρά. Όμορφη γυναίκα που έχει βρεμένε τα ρά. Που την είδες, που την ξέρεις και τη μολογάς. Που την είδες, που την ξέρεις και τη μολογάς. Χθες την είδα στο πηγάδι και βγάζε νερό και τη ζήτησα φυλάκι και μου το δώσε. Και τη ζήτησα φυλάκι και μου το δώσε. Ο Μενούσης μεθυσμένος πάει την έσφαξε. Ο Μενούσης μεθυσμένος πάει την έσφαξε. Το πρωί ξεμεθυσμένος πάει την εκλάψε. Το πρωί ξεμεθυσμένος πάει την εκλάψε. Ξύπνα μάτια μου, ξύπνα χίνα μου, ξύπνα κι αλλάξε. Ξύπνα μάτια μου, ξύπνα χίνα μου, ξύπνα κι αλλάξε. Να σε δουν τα παλικάρια, να σε χαιρόνται. Να σε δουν τα παλικάρια, να σε χαιρόνται.
Μαγκαζέ, μαγκαζέ.
Une autre habitante d'Hispaniola, c'est Toto Bissin qui, elle, vient de l'autre partie de l'île. Avant, c'était la République dominicaine, maintenant c'est Haïti avec Toto Bissin. Alors à la semaine prochaine sur Rome Humainage avec les femmes de la République dominicaine.
Sous la mer, rien pas ça fait moins.